Le schéma des monarchies et des systèmes similaires contient un message précieux pour toutes les formes politiques. Mes souvenirs m'affirment que les gouvernements de tout type pourraient profiter du message. Les gouvernements peuvent être utiles aux gouvernés uniquement dans la mesure où sont freinées leurs tendances inhérentes à la tyrannie. Les monarchies, par exemple, ont quelques bons côtés à part leurs qualités vedettes. Elles peuvent réduire la taille et le caractère parasitaire de la bureaucratie administrative. Elles peuvent accélérer les décisions lorsque c'est nécessaire. Elles répondent à un très ancien besoin humain de hiérarchie parentale ou tribale ou féodale, où chacun reconnaît sa place. Il est en effet important de connaître sa place, même si elle n'est que provisoire. De même qu'il est exaspérant de se voir maintenir de force à la même place. C'est pourquoi j'ai choisi d'enseigner la tyrannie par la meilleure méthode qui puisse exister, par l'exemple. Même si vous lisez ces mots après le passage d'une éternité, ma tyrannie n'aura pas été oubliée. Mon sentier d'or m'en donne l'assurance. Connaissant mon message, vous serez, je l'espère, extrêmement prudent quant au pouvoir que vous déléguerez à quelque gouvernement que ce soit. Les mémoires volées. Leto se prépara avec un soin prudent à sa première entrevue privée avec Siona, depuis que celle-ci avait été exilée tout enfant dans les écoles de truitesse de la cité festive. Il avait dit à Monéo qu'il désirait la rencontrer à la petite citadelle, une tour stratégique qu'il avait édifiée au cœur du Sarir. Le site avait été choisi parce qu'il était au carrefour des anciennes et des nouvelles perspectives. Aucune route n'aboutissait à la petite citadelle. Les visiteurs arrivaient en ornie. Leto s'y rendait comme par magie. De ses propres mains, dans les premiers temps de son avènement, Leto avait utilisé une machine ixienne pour creuser sous le sarir un passage secret menant à cette tour. Il avait accompli le travail tout seul. À cette époque-là, quelques vers des sables sauvages hantaient encore le désert. Leto avait entouré la galerie d'une gaine épaisse de silice fondu, à laquelle il avait incorporé vers l'extérieur d'innombrables bulles d'eau destinées à repousser les vers. Les dimensions de la galerie étaient prévues pour la taille maximale du corps de Leto et pour le passage du chariot royal, qui n'existait alors qu'à l'état de vision prophétique. Le jour où il devait voir Siona, Leto descendit dans la crypte peu avant les premières lueurs de l'aube et ordonna à la garde de faire en sorte qu'il ne soit dérangé sous aucun prétexte. Il lança alors son chariot sur la pente de l'un des corridors qui s'éloignait de la crypte. Arrivé à une certaine distance, il ouvrit une porte secrète. En moins d'une heure, il émergeait dans la petite citadelle. Un de ses grands plaisirs était de s'aventurer tout seul dans les sables, sans chariot, sans rien d'autre que son corps prévermiforme pour le porter. Le sable contre lui était voluptueux. La chaleur de son passage à travers les dunes faisait monter dans les premières lueurs du jour un fin sillage de vapeur qui l'obligeait à se déplacer sans cesse. Il ne s'arrêta que quand il eut trouvé un creux relativement sec à 5 ou 6 kilomètres de son point de départ. Il demeura quelques instants au centre d'une inconfortable moiteur due à la condensation infime. Son corps était alors juste à la lisière de l'ombre démesurée de la tour qui se profilait sur les dunes en direction de l'est. De loin, la tour, avec ses 3 000 mètres de haut, ressemblait à une impossible aiguille transperçant le ciel. Seul le mélange inspiré des exigences de Leto et de l'imagination ixienne avait pu rendre concevable une telle structure. Elle n'avait que 150 mètres de diamètre à la base, mais ses fondations plongeaient aussi profondément dans le sable que son sommet était près du ciel. Grâce à la magie du plastacier et des alliages superlégers, elle était à la fois souple au vent et résistante à l'abrasion des tempêtes de sable. Leto aimait tellement cet endroit qu'il s'en rationnait les visites, selon un code personnel de conditions requises. En gros, ces conditions se résumaient à la formule « nécessité absolue ». Pendant les quelques instants qu'il allait passer là, il pourrait oublier le poids du sentier d'or. Monéo, le brave et fidèle Monéo, veillerait à ce que Siona arrive à l'heure dite, juste à la tombée de la nuit. Leto avait une journée entière devant lui pour se détendre et méditer, pour faire comme s'il était libre de tout souci, pour capter à son gré les énergies telluriques dans une frénésie réceptrice à laquelle il ne pouvait guère s'abandonner quand il était à Aun ou à la citadelle. Là-bas, il fallait qu'il s'accommode d'incursions furtives dans des boyaux étroits où seule sa prudente prescience lui évitait la désagréable rencontre de poches d'eau. Ici, il pouvait parcourir librement les sables, aussi bien en surface qu'en profondeur. Ici, il pouvait se nourrir et se fortifier. Le sable craquait sous lui tandis qu'il s'y roulait, arquant son corps de pur plaisir animal. Il sentait son moi vermiforme se régénérer et cette sensation électrique libérait en lui des messages pulsés de vigueur irradiante. Le soleil était maintenant au-dessus de l'horizon et peignait sur la tour une frange dorée. L'air était imprégné d'une odeur âcre de poussière, mêlée à celle de lointains buissons épineux qui avaient réagi à la mini-rosée du matin. Doucement d'abord, puis de plus en plus vite, il se mit à décrire un large cercle dont la tour était à peu près le centre. Tout en se défoulant, il pensait à Siona. On ne pouvait plus retarder la chose. Siona devait être mise à l'épreuve. Monéo lui-même s'en rendait compte. Pas plus tard que la veille, il lui avait dit « Monseigneur, je sens en elle une violence effroyable. » Elle présente les premiers symptômes de dépendance à l'adrénaline, lui avait répondu Leto. Le moment est venu de la mettre en manque. En manque? C'est une vieille expression. Elle signifie que nous allons la soumettre à un sevrage total. Il faut qu'elle connaisse le choc du besoin. Oh, je vois. Pour une fois, songea Leto, Monéo voyait réellement. Le majordome avait lui aussi connu en son temps l'état de manque dont il était question. Les jeunes sont généralement incapables de prendre des décisions fortes si elles ne sont pas accompagnées de violences immédiates, avec la production d'adrénaline qui en découle, avait expliqué Leto. Monéo avait observé quelques instants de réflexion silencieuse. Il se rappelait. « C'est une source de grand danger », avait-il murmuré. « C'est cela, la violence que tu perçois chez Siona. Il y a parfois des vieux qui s'y raccrochent, mais les jeunes s'y vautrent allègrement. » Décrivant sa courbe au pied de la tour dans la lumière croissante du matin, heureux de sentir sous lui le contact du sable qui devenait de plus en plus sec, Leto réfléchissait à cette conversation. Il ralentit légèrement son allure. La brise venant de derrière lui apportait à ses narines humaines une odeur d'oxygène et de silex brûlé. Il respira à fond, haussant ses perceptions accrues à des niveaux encore jamais atteints. Cette journée préliminaire répondait à des préoccupations multiples. Il envisageait la rencontre attendue à peu près de la même manière qu'un torero ancien envisageant son premier examen d'un adversaire à cornes. Siona possédait des cornes à sa façon, bien que Leto pût compter sur Monéo pour qu'il s'assure qu'elle n'amènerait pas d'armes concrètes à ce rendez-vous. Il fallait cependant que l'empereur Dieu sache à quoi s'en tenir sur chaque point fort ou faible de Siona. Et quand c'était possible, il fallait qu'il crée chez elle des ressources spéciales. Pour qu'elle soit convenablement préparée à l'épreuve, il était nécessaire que ses muscles psychiques soient anesthésiés par quelques banderilles habilement plantées. Peu après midi, son moi vermiforme assouvi, Leto retourna à la tour, réintégra son chariot et s'éleva sur ses suspenseurs jusqu'au sommet où la baie d'accès ne pouvait s'ouvrir qu'à son commandement. Il passa tout le reste de la journée dans ce nid d'aigle, à méditer et à tramer. Le battement des ailes d'un ornithoptère froissa l'air juste à la tombée de la nuit, annonçant l'arrivée de Monéo. Fidèle Monéo. Leto fit sortir une rampe d'atterrissage de la paroi du nid d'aigle. L'ornithe s'y glissa, les ailes repliées, et s'immobilisa sans heurts à quelques mètres de la baie d'accès. Leto contemplait le ciel qui commençait à s'obscurcir. Siona descendit de l'appareil et courut vers lui, apeurée par le vide sans protection. Elle portait une cape blanche par-dessus un uniforme noir dépourvu de tout insigne. Elle regarda une seule fois derrière elle en s'arrêtant juste à l'intérieur de la tour, puis elle fixa son attention sur la masse de l'étau qui l'attendait sur son chariot, presque exactement au centre du nid d'aigle. Leur nid décolla aussitôt et s'éloigna dans la nuit. L'étau laissa la rampe sortie, la baie grande ouverte. « Il y a un balcon qui donne sur l'autre côté, » dit l'étau. « Nous serons mieux là-bas.
Pourquoi ?»
La voix de Siona était chargée de suspicion presque à l'état pur. « Il paraît qu'il y fait plus frais. Et je ressens effectivement comme une sensation de froid sur mes joues quand je les y expose au vent. » La curiosité lui fit faire, malgré elle, un pas en avant. L'étau referma alors la baie.
« Le spectacle de la nuit, vu de ce balcon, est splendide, » reprit l'étau.
« Pourquoi sommes-nous ici ?»«
Parce qu'il n'y a pas d'oreille indiscrète à craindre. »
L'étau fit faire demi-tour à son chariot et se déplaça silencieusement jusqu'au balcon. L'intérieur, très faiblement éclairé du nid d'aigle, permettait à Siona de suivre les mouvements de l'empereur Dieu. Il l'entendait marcher à quelque distance derrière lui. Le balcon était un demi-cercle en saillie sur la face courbe de la tour exposée au sud-est. Il était protégé, jusqu'à hauteur de poitrine, par une balustrade tout en arabesque. Siona alla s'appuyer contre la balustrade et embrassa l'horizon du regard. L'étau perçut sa réceptivité attentive. Des choses allaient être dites ici, à l'intention de ses seules oreilles. Quelles que fussent ces choses, elle les écouterait jusqu'au bout et réagirait en fonction de ses propres motivations. L'empereur Dieu laissa porter son regard au-dessus du sarir, vers l'endroit où la muraille édifiée par la main de l'homme formait une ligne basse à peine visible à la lueur de la première lune qui se levait à l'horizon. Sa vision amplifiée lui permit de capter le mouvement lointain d'un convoi venu de Aune, grâce à la faible lumière des véhicules tirés par des animaux qui serpentaient sur la route montagneuse, en direction du village de Tabour.